Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Déjà le mois de mars, le temps file à toute allure et nous commençons ce mois de mars avec la fin d'un triptyque que nous avions consacré grâce à Cécile Carrier, spécialiste de la statuaire au Musée de la Romanité, que nous avions consacré à tout ce matériel funéraire et aux portraits qu'on pouvait en dégager. Et donc, nous abordons le troisième et dernier volet, mais Cécile, qui a une conscience professionnelle vraiment extraordinaire, voudrait faire un petit flashback, comme on ne disait pas à Rome.
Comme on ne disait pas, exactement. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voudrais, Martine, revenir sur deux stèles à portrait dont nous avons parlé. Alors, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième émission, sujet des monuments funéraires, mais vous m'aviez posé une question sur les épitaphes qui accompagnaient ces portraits, et j'avais eu un vide. J'avoue que je ne me souvenais plus du tout, assez bêtement, et donc je suis retournée à l'école, je suis allée revoir ces objets de plus près. Donc, je voudrais reparler de la stèle de Cynthia Honorata. Donc, pour rappel, elle se trouve donc au premier étage, dans l'espace funéraire, à côté de l'espace religion. Donc, elle représente une dame avec une jolie coiffure en nid d'abeille. Et l'inscription est assez simple. Elle donne d'abord le nom, hein, Cynthia Honorata. Et en deuxième ligne, on a le nom de celui qui a dédicacé le monument funéraire, qui est donc Fidélis, qui est dit son père nourricier. Donc, qu'on peut supposer être un père adoptif. On peut le supposer. Donc, voilà pour cette première stèle, ce qui est dit. Et la deuxième stèle, qui est juste à côté, c'est celle de Caesonia Horaea. Donc l'inscription est plus complète sur la face principale, donc en dessous du portrait. Il y a noté donc son nom, A. Caesonia Horaea. Et la dédicace est faite par... Enfin, on ne sait pas par qui est faite la dédicace, mais on peut supposer que c'est son époux, car c'est marqué « coniugi carissimae », c'est-à-dire à son excellente épouse. Donc, on peut supposer que c'est son époux qui a fait la dédicace et fait faire le monument. Donc, c'est une excellente épouse, ça, c'est déjà ça.
Et c'est un très bon mari aussi,
et,
du coup.
Manifestement. Et ce qui est intéressant pour cette stèle, c'est que sur les faces latérales, il y a un complément d'inscription. D'un côté, il y a marqué « Salum venire », c'est-à-dire à peu près « heureuse arrivée », quelque chose comme ça. Et sur l'autre côté, « Salum ire », c'est-à-dire « heureux départ ». Donc, qui sont des mots de bonne chance dans l'au-delà. C'est un mot d'adieu assez gentil pour son épouse. Donc, c'est assez intéressant de bien se pencher sur cette stèle de Caesonia.
Et en même temps, il y a quelque chose d'attendrissant dans ces mots.
Fait, hein, oui, tout à fait. Oui, complètement. On sent qu'ils étaient un couple apparemment assez uni. En tout cas, ils étaient attachés l'un à l'autre. En tout cas, on peut le croire, avec ce qui est un Christ qui n'est pas grand non plus. Voilà, donc c'est intéressant de revenir dessus. Vous avez bien fait de me poser la question.
Donc, en tout cas, merci de ce retour en arrière qui nous a permis de reparler de ces beaux portraits qu'on aime beaucoup.
Voilà.
Alors, que va-t-on évoquer maintenant?
Alors, on va revenir donc sur la suite de la stèle du laboureur. Nous l'avions juste évoqué lors de l'émission.
Nous avions essayé de créer un happening, un suspense.
Voilà, suspense. Donc, cette stèle, pour rappel, elle est toujours donc au premier étage côté romain. Elle est à la fin de tout l'espace sur la vie quotidienne, après les vitrines sur l'agriculture. D'ailleurs, elle prend sa place à cet endroit-là exprès. Alors, elle est un peu en mauvais état, il en manque des bouts. Elle a été scalpée, si je puis dire. Et les portraits sont assez effacés, hein. On ne les voit pas tellement. Donc
là,
c'est
surtout. Hein,
oui, c'est donc une stèle à portrait, enfin à registre et avec portrait. Donc le registre supérieur, il y avait les portraits. Donc de la dame et du monsieur, et enfin on peut supposer vu leur état, mais oui c'est bien ça. C'est une stèle qui fait actuellement à peu près 60 cm, mais il faut imaginer qu'elle était plus grande, et il n'y a pas d'inscription, parce que soit elle est partie, soit il n'y en avait pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'elle est vraiment fragmentaire, donc elle est en calcaire, donc très, on sent qu'elle a subi à la fois des cassures et probablement des coulures.
Ouais, ce que j'allais
on
dire,
la sent
oui,
arasée
oui.
Par, voilà. Et la provenance, on n'est pas sûr qu'elle vienne de Nîmes, vraiment cette pauvre stèle, on n'a pas beaucoup d'éléments sur elle, mais ce qui est intéressant, c'est que le registre inférieur actuel représente une scène de labour avec deux bœufs attelés, avec un laboureur, alors avec là aussi c'est intéressant, on a l'image du travailleur hein, typique, avec sa tunique courte, serré à la taille pour pas être gêné. Donc ça c'est intéressant puisqu'on a une iconographie d'une vie quotidienne, et c'était ça le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de montrer que sur les monuments funéraires on a les inscriptions, on peut avoir les portraits et on peut avoir des scènes de la vie quotidienne, et ça pour nous ce sont des éléments quand même importants, même si on peut imaginer qu'il y a une certaine interprétation de la vie quotidienne, il n'empêche que ça nous amène quand
oui.
même
c'est à la fois stylisé forcément,
oui, forcément
donc
c'est simplifié,
voilà, mais en même temps ça dit qui sont ces personnes
et qui sont ces personnages, et ça nous indique plein de choses sur leur vie quotidienne, leurs vêtements, les outils. Ici en l'occurrence on voit bien la raie d'arrière, enfin au moins l'arrière, et les bœufs qui sont attelés,
voilà, attelés par deux sous le fameux joug, hein,
voilà. Exactement.
Oui, oui. Moi, je trouve toujours ça émouvant, là encore, parce qu'on est au cœur du quotidien.
Voilà,
quoi,
c'est ça. Alors, la question, moi, que je me pose, c'est est-ce que le laboureur, est-ce que c'est celui, enfin, c'est le défunt, ou est-ce que c'est un travailleur qu'il paye, ou un esclave qui travaille pour lui. Ça je ne peux pas vous dire si le portrait du monsieur qui est au-dessus de cette scène, c'est le laboureur lui-même, ou si c'est le patron. Ça, évidemment, comme rien n'est écrit, je ne peux pas vous dire. On sait que sur de nombreuses stèles où des scènes de la vie quotidienne apparaissent avec des scènes de travailleurs, souvent c'est le défunt lui-même. Mais là, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous le préciser.
Oui, en tout cas, c'est assez curieux parce que son visage, ses traits se sont effacés.
Et oui, malheureusement.
Mais son métier reste.
Voilà, ouais. Exactement. Et c'est... pour ainsi dire, la seule scène de vie quotidienne sur Stèle que l'on a encore à Nîmes, malheureusement. Donc, c'est intéressant d'aller la voir, puisque c'est quand même, pour nous, une pièce assez rare sur Nîmes, en tout cas. Donc, c'est intéressant d'aller la voir.
Oui, on doit avoir, sur les gladiateurs, on doit en avoir une.
Oui, mais on n'a pas les images qui vont avec les stèles. Mmh. Donc, pour nous, c'est, voilà, ça reste une stèle et une scène unique sur Nîmes.
Alors, on continue notre parcours parce qu'il y a beaucoup à dire. Et là, sur les photos que vous me présentez...
Oui, c'est peut-être pas très lisible. Hein.
On voit donc un sarcophage,
oui.
Un couvercle.
C'est un couvercle de sarcophage, alors qui malheureusement n'est pas exposé au musée. Il est pour l'instant en réserve. On espère un jour pouvoir le mettre parce que c'est le seul qu'on a.
Et il a l'air assez grand, celui-ci,
c'est assez grand, oui. Il fait 1,20 m de longueur. Donc, pour décrire à nos auditeurs et auditrices, en fait, c'est un couvercle de sarcophage qui est décoré de la statue du défunt qui est alitée hein, sur son lit de...
À la manière étrusque.
À la manière étrusque, exactement, sur son lit funéraire, donc accoudé sur le côté. Hein, ils sont toujours alités sur le côté, alors là, en l'occurrence, le côté gauche.
Oui, c'est le côté gauche.
Voilà,
oui.
Alors le drapé, enfin, il n'y a plus de tête. Il n'y a qu'une partie du corps avec le drapé et c'est très effacé. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, il n'a pas été mis en exposition parce que c'est quand même très difficile à lire. Mais on connaît d'autres exemplaires ailleurs dans d'autres musées. C'est assez caractéristique. Hein. Donc, on a le portrait du défunt sur le couvercle. Donc ça, c'est un autre type de monument, hein, des représentations du portrait du défunt.
Et avec un drapé magnifique, abondant.
Oui, ça devait être un bel objet dont il ne reste plus grand-chose, malheureusement.
Et il devait y avoir de la couleur, on peut peut imaginer, mais là aussi, là aucune aussi, trace.
Disons, là, en plus, il demanderait à être nettoyé, restauré. Donc là, c'est une photo en l'état. Il y a du travail à faire là-dessus. Et c'est un sarcophage qui est le couvercle est en marbre. Donc on peut supposer que l'ensemble du sarcophage était en marbre, ce qui est quand même notable.
Oui.
Là, c'est quand même intéressant de le savoir.
Et on sait où il a été exhumé ?
Sur la route d'Alès. Donc...
D'Alès.
Pour vous dire plus que ça, pas d'éléments. Mmh. Donc, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce type de monument funéraire et de le. Bon, même si malheureusement les visiteurs peuvent pas le voir, mais c'est quand même intéressant de le mentionner que ça existe comme type de portrait funéraire.
Alors, nous poursuivons notre balade au pays des pierres. Avec une plaque qui représente une apothéose. Alors ça aussi, nous n'en avions pas parlé.
Alors, on en a parlé lorsqu'on a fait, en 2021, l'exposition sur l'empereur romain mortel parmi les dieux. Elle était exposée en fin de parcours sur l'image justement des scènes d'apothéose et de la divinisation, entre guillemets, des défunts.
Donc on rappelle à nos auditeurs que apothéose, ça veut dire accès à la divinité, justement.
En tout cas, la vie éternelle, sans être vraiment une divinité, mais au moins un espoir de vie après la mort. Hein. Ça, c'est un sujet que les Romains se posaient, les philosophes en parlaient. C'est un sujet qui, comme tout le monde, ça fait peur, bien sûr, qu'est-ce qui se passe après. Et donc, c'est une plaque qui n'est pas exposée de façon permanente, mais qui de temps en temps ressort dans les expos.
Celle-ci est très nette.
Oui, alors c'est une belle plaque en marbre, en très très bien conservée. Alors, elle est très bien conservée dans le sens où on a le sujet principal, c'est-à-dire on voit la défunte portée par un démon funéraire, enfin un démon, pas dans le sens démoniaque d'aujourd'hui.
Voilà, hein, le daimon, c'est la présence divine.
Divine, voilà, qui est un personnage masculin ailé, assez costaud d'ailleurs, hein, c'est une belle anatomie. Et on voit la défunte qui est assise sur son épaule et son bras gauche. Et quand au départ, on pensait que c'était peut-être l'image d'Eros et Psyché, mais en fait, pas du tout. Quand on regarde la défunte, on voit une coiffure bien typé et bien daté de l'époque antonine, un peu tardive même. On peut la dater vers les années 180-190, hein, c'est assez caractéristique. Donc on a bien un portrait d'une défunte, donc c'est probablement une plaque qui ornait un grand monument funéraire de Nîmes. Elle a été retrouvée en remploi rue nationale vers les Halles. Donc, comme tous ces objets qui voyagent beaucoup. Hein, donc, ça n'a rien d'étonnant.
Elle a une belle couleur aussi.
Oui. C'est un beau marbre, hein, mine de rien. J'avoue que quand on l'a exposée, nous, c'était la première fois que je la voyais en dehors de la réserve. C'est vrai que c'est une belle pièce. J'espère qu'elle ressortira encore dans d'autres expos temporaires, hein, parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vue. Là, c'est donc un autre exemple de portrait funéraire, d'un autre type de portrait funéraire qu'on peut voir. Donc voilà.
Alors, on va marquer une pause musicale et puis ensuite, on ira voir un cénotaphe.
Oui.
À tout de suite.
Thank you.
Antiquissimo sur Radio Alliance Plus avec Cécile Carrier pour nous expliquer tout ce qui va avec ce matériau funéraire que l'on trouve dans le musée de la Romanité, souvent exposé, parfois dans les réserves.
Parfois en réserve, mais on essaye de temps en temps de les sortir pour les exposer au moins temporairement, pour que les visiteurs puissent se rendre compte de la richesse de nos réserves.
Alors, ce faisant, on aborde à chaque fois un petit peu de vocabulaire technique. On a rappelé ce que c'était que l'apothéose. Là, il faudrait peut-être rappeler ce que veut dire le mot cénotaphe.
Alors, en fait, le cénotaphe, c'est un monument qui n'est pas funéraire dans le sens strict du terme. C'est plutôt un monument honorifique, votif, et il ne marque pas l'emplacement de la tombe comme les monuments dont on a parlé jusqu'à présent. Le cénotaphe n'est pas un marqueur de tombe. En fait, il marque un emplacement que l'on a réservé pour être honorifique. Mais le cénotaphe honore un défunt malgré tout. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans les monuments funéraires. C'est parce que c'est quand même en lien avec le funéraire.
Et d'ailleurs, dans le texte que vous nous présentez sur ce cénotaphe, il y a tout de suite le mot « mémoriae ».
Et voilà, exactement, en mémoire d'eux. En fait, je ne vais pas tout raconter sur ce cénotaphe parce qu'il faudrait pratiquement deux émissions. Une émission pour décrire, pour expliquer l'épitaphe, enfin la mention en inscription, et une émission pour le décor. Donc là, ça va être un peu juste, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, d'abord, où trouve-t-on ce cénotaphe? On le trouve à côté des stèles de Cynthia Honorata et de Caesonia, c'est-à-dire au premier étage dans la section funéraire. Et on ne peut pas le rater parce qu'il est énorme. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pris les dimensions, malheureusement, comme une imbécile que je suis. Mais il doit faire presque 2 mètres de haut, je crois, quelque chose comme ça, 1 mètre 80. Je crois qu'il n'est pas loin de la tonne, je crois, en poids. C'est quelque chose d'énorme. C'est un bloc énorme de marbre, hein, quand même. Il faut le souligner, c'est du marbre. En plus.
Et cette impression d'énormité, comme vous dites, on la ressent aussi parce que le décor est extrêmement surchargé.
C'est presque du baroque, je dirais. Il y en a partout, part sur l'inscription, il y en a partout, même sur les côtés. Donc il n'y a que l'arrière qui n'est pas sculpté.
Ah oui, ça dégouline en effet.
Oui, il y a plusieurs registres, il y a les côtés, enfin c'est énorme. Mais c'est aussi pour dire l'importance du personnage, qui est donc Marcus Atius Paternus, qui fait partie d'une famille de chevaliers. Hein. C'est donc de l'ordre équestre municipal. Et qui fournit donc, alors il faut savoir que cet ordre équestre, c'est lui qui fournit les grands cadres de l'administration provinciale et les prêtres du culte impérial en province. Donc c'est une carrière honorifique qui est assez importante, hein. On est là dans le gratin de la société nîmoise. Et pas que nîmoise, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage a été décurion dans la ville de Ries. Et son père est probablement de Ries. Alors ça, ce sont les hypothèses qu'ont fait les spécialistes des inscriptions, comme
oui, en
notamment
les...
Michel Christol.
Oui.
Donc c'est aussi ce que nous dit la stèle, hein. C'est que son père est probablement de Ries, ce qui explique qu'il ait fait une carrière à Ries. Mais le fait qu'on ait le cénotaphe à Nîmes est probablement dû au fait que la famille de sa mère est originaire de Nîmes.
D'accord.
Voilà, c'est pour expliquer. ce qu'on peut penser aussi, c'est que la tombe devait se trouver à Ries, d'où il était originaire, probablement aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce cénotaphe a été trouvé à Clarensac, d'où on suppose que la tombe était, qu'il y avait un culte funéraire autour de ce cénotaphe à Clarensac.
D'accord.
Voilà, je crois que j'ai réussi à peu près à tout remettre dans. Donc en fait, il y a deux cités, la cité de Ries et la cité de Nîmes, qui sont au cœur de de notre sujet ici. Donc le décor est assez foisonnant, on ne va pas tout décrire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un décor hautement symbolique. On a notamment une patère et une cruche qui sont sur les côtés, qui sont liées directement aux libations qui sont données lors du rituel religieux. C'est le rituel religieux qui permet d'avoir un équilibre entre les mortels et les dieux, hein, donc c'est l'équilibre du monde. On a également des griffons qui sont les gardiens de tombes. mais qui sont aussi des symboles de résurrection. Donc là, on est...
Des créatures hybrides,
voilà,
toujours.
Oui,
hein.
Toujours. Et donc là, on est en lien avec Apollon également, hein, sur cette, sur, avec ses griffons. Et donc là, on sent bien qu'il y a un espoir que bah, voilà, la vie de ce jeune homme n'est pas totalement terminée.
Alors, vous dites jeune homme parce que dans l'inscription, on nous le mentionne.
Oui, exactement. Oui, oui, il est mort jeune. Enfin, et malheureusement, il n'a pas pu terminer sa carrière honorifique. Il y a aussi des éléments en lien avec Apollon. Donc, j'ai parlé des griffons, mais il y a également le trépied et la guirlande de laurier. Et donc là, on est dans un emblème de victoire, normalement militaire. Mais là, on en fait un emblème de victoire sur la mort, toujours dans cet espoir de quelque chose après la mort. On a aussi pensé que cette référence à Apollon pouvait avoir un lien avec la ville de Ries, puisqu'elle s'appelle Apollinaris Reiorum. Excusez-moi,
c'est comme très dur à dire.
Oui, puis comme j'ai tendance à être un peu dyslexique, pour moi, c'est toujours compliqué. D'autres éléments symboliques, ce sont les scènes de chasse aux lions et aux sangliers, qui sont des références à la chasse, aux chasses de l'élite. Hein. C'était toujours les animaux réservés à l'élite de la société. Donc ça...
Il reste quelque chose, parce que les sangliers à Nîmes, il y en a un paquet.
Comme quoi, ils n'ont pas tout chassé. Et c'est un symbole de pouvoir, de richesse, hein, qui est clairement indiqué. Pour nous, ça montre tout de suite le niveau social du personnage. Mais c'est aussi un symbole du courage du défunt. Hein. C'est l'évocation à la fois de l'acte de guerre, des grandes chasses héroïques de la mythologie grecque qui sont là.
Là, on est dans le culte viril.
Oui, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qui montre aussi qu'il est mort jeune également. C'est quelque chose qui nous rappelle que c'était un jeune homme vigoureux. Enfin voilà, c'est des symboles que l'on amène ici à voir à celui qui passe devant le cénotaphe. Et également une scène intéressante, c'est sur le fronton, hein, tout à fait en haut, vous avez un combat de l'aigle et du serpent.
Oui.
L'aigle étant un oiseau de l'apothéose et de victoire sur la mort, et le serpent étant un animal cnonien, c'est-à-dire de la mort. Donc là aussi, ça montre...
Et puis qui va en dessous, au-dessus de la terre. Lui aussi,
et donc on est ambigu. Voilà,
ambigu.
On est vraiment dans le symbolique de l'âme qui est transportée, hein, d'âme du défunt qui est transportée vers les astres. Donc toute cette symbolique, hein, toutes ces images, c'est vraiment à la fois des symboles sociaux et funéraires. C'est vraiment pour montrer aux gens qui passent qui est le défunt et les souhaits de victoire sur la mort, de l'espérance de l'au-delà. C'est à la fois riche et très parlant. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas lire le texte aura par l'image tout un décorum.
Parce que j'aime bien que vous évoquiez ça aussi, parce que tout le monde ne sait pas lire.
Oui,
hein, et il faut donc faire appel, et c'est bien aussi la symbolique du poisson chrétien, hein, il faut faire appel pour tous ces gens-là au dessin.
Exactement, et l'image frappe. On ne va pas forcément prendre le temps de lire les mots, mais par contre, on va lire l'image de manière instinctive, automatique, sans même... vraiment chercher à comprendre, celui qui voit l'aigle, c'est tout de suite ce que ça veut dire, il n'a pas besoin de réfléchir.
Mais oui, parce que les connivences culturelles étaient immédiates. Voilà. Donc effectivement, ça fait beaucoup, là, le texte et l'image, pour dire la même chose. En fait.
Oui.
Alors, est-ce qu'on sait comment est mort ce jeune homme ?
Non.
Pas du tout, hein, ça n'est pas explicité, on nous donne simplement ses états de service.
Ses états de service, on sait qu'il est mort jeune, je crois que c'est noté, mais je crois que je ne l'ai pas regardé. Mais il me semble qu'il y a l'âge qui est noté, mais là, tout de suite, maintenant, je ne m'en souviens plus.
Et on sait qui a dédié ce...
La mère.
La mère.
Si je me souviens bien, c'est la mère. Je vérifie. Oui, par sa mère, c'est bien ça, oui. Que des fois, je me mélange un peu, mais si c'est bien la mère qui a fait faire le... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on suppose que, de par sa mère, il est originaire de Nîmes. Enfin, de la cité de Nîmes. C'est Clarence Sac fait partie de la cité de Nîmes.
Oui. Donc, il y a énormément à observer.
À observer, à côté. Mais d'ailleurs, il y a un multimédia, hein, qui se déclenche quand on passe à proximité pour que les gens puissent avoir un minimum d'informations.
Oui, toutes les clés, parce que ces fameuses connivences culturelles, elles ont disparu pour la plupart des gens.
Ben oui, pour nous, effectivement, c'est plus complexe à comprendre.
Alors, il nous reste fort peu de temps, mais Alors, évidemment, oui, on se reverra, donc oui, on a beaucoup de choses
mais
encore à se dire.
On va clore au moins sur quelque chose qu'on a déjà plusieurs fois évoqué, c'est sur le décor sculpté des tombeaux monumentaux de l'ensemble. Hein. Là, on parle de l'enclos funéraire. On sait que ces mausolées peuvent être énormes avec des jardins funéraires. On l'a déjà évoqué avec le groupe statuaire de Beaucaire.
Pareil, ceux-là, on aime les revoir tout le temps. Et je trouve qu'ils sont dans le musée de la Romanité parfaitement mis en scène.
Oui, il clôt un peu toute la partie. C'est la dernière chose que l'on voit.
On a l'impression qu'ils sont chez eux.
Oui,
ils
sont bien installés. Oui, tout à fait. Et donc, c'est juste pour évoquer qu'il n'y avait pas seulement les portraits des défunts, il pouvait y avoir un décor sculpté autre de la statuaire qui rappelait les décors des maisons. Il pouvait y avoir aussi un cadran solaire. Et on sait que dans ces jardins, enfin dans ces enclos funéraires, il pouvait y avoir triclinium, jardin potager, il pouvait y avoir un four pour faire cuire et réchauffer des choses. Bref, tous ces ensembles peuvent être très riches. Les mausolées eux-mêmes peuvent être décorés de tout un tas d'éléments, des masques funéraires. On a parlé d'un masque lors de la première émission, je crois, d'un masque de théâtre qui ornait un angle de couvercle de sarcophage. Il pouvait y avoir des grands masques qui font plusieurs centimètres de haut, jusqu'à 70 cm, 1 mètre de haut, qui ornaient ces grands mausolées. Il peut y avoir des sphinges, par exemple, voilà, des sphinx, on en a parlé tout à l'heure. Donc, quelque chose d'assez riche, on en trouve notamment, on en trouvait à Orange, à Fourchevieille, on a trouvé des éléments comme ça. Donc, il faut imaginer que ces enclos funéraires pouvaient être, et ces monuments funéraires immenses à étages, comme celui de Glanhomme, pouvaient être très riches en sculpture.
Alors, on va momentanément laisser nos amis pour les retrouver une autre fois. Et on vous dit mille merci, Cécile.
Merci à vous.
Au revoir.
Pour partager vos événements à l'antenne, agenda@radioalliance-plus.fr.